La CMA ferme demain ses locaux historiques de Nouville. Le 2 décembre, elle s'installe dans ses nouveaux locaux à Ducos. Les élus du Congrès ont examiné le rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont pris plusieurs mesures. Près de 8000 entreprises ont bénéficié de Sudpro. La province Sud dressait le bilan de ce dispositif ce matin et a annoncé des évolutions pour 2026. En métropole, Emmanuel Macron doit annoncer la nuit prochaine pour nous la mise en place d'un nouveau service militaire. Il se fera sur la base du volontariat. Les chrétiens ciblent privilégiés des islamistes en France, c'est ce que révèle une note de la DGSI dévoilée par Le Figaro. Et puis du football dans la page sport, le PSG s'est imposé 5-3 sur Tottenham en Ligue des Champions ce matin. Monaco a fait match nul de partout sur la pelouse des Chypriotes de Paphos. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Cela fait maintenant plusieurs années que les acteurs économiques calédoniens s'organisent pour exporter des produits locaux qui s'y prêtent. C'est déjà le cas pour certains produits agroalimentaires, pour la tech, mais cela concerne aussi l'artisanat. Plusieurs artisans sous l'égide de la Chambre des métiers et de l'artisanat viennent de participer au salon Made in France qui s'est tenu à Paris début novembre. Nous en parlerons à midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec le sculpteur calédonien Mélem Thiaou qui a participé à ce salon, avec la présidente de la commission de la communication et rayonnement de la CMA, Laura-Marie Rivière, et le membre du gouvernement, Christopher Gigès. La CMA qui tourne une page historique, elle va en effet quitter demain ses locaux qu'elle occupait depuis 30 ans à Nouville pour emménager dans ses nouveaux locaux à Ducos, le centre, où elle accueillera le public dès le mardi 2 décembre, Elisabeth Noir.
Ce déménagement est la suite du conflit qui a opposé la Chambre de métiers au port autonome pour une histoire de loyer trop élevé et impayé. Mais la présidente de la Chambre de métiers, Elisabeth Rivière, voit dans cette situation une opportunité et elle souligne qu'aujourd'hui, tout est prêt.
Nous avons eu le conflit avec le port. La Chambre de métiers d'artisanat s'était engagée à payer ce qu'elle devait au port. Aujourd'hui, c'est fait. Nous tournons une nouvelle page et nous allons aller nous installer tout près de nos artisans, dans le poumon économique de la Nouvelle-Calédonie et plus principalement dans Ducos. Alors oui, nous sommes prêts et dès demain matin, les premiers déménagements vont se faire dans nos nouveaux locaux.
La Chambre de métiers emménage dans de nouveaux locaux dans le complexe Ducos-le-Centre. Cela va renforcer la proximité avec les entreprises artisanales, tout en maintenant un accès facile pour les services de la Chambre.
Rien n'arrive par hasard dans la vie et je crois qu'il était peut-être temps que nous nous rapprochions de nos artisans. Aujourd'hui, ils ont besoin de cette proximité et ce conflit nous permet en fait de nous rapprocher de nos ressortissants et de leur apporter exactement les mêmes services qu'il y avait auparavant, mais plus proche de leur lieu d'activité pour ceux qui sont implantés sur du coast et pour ceux qui ne le sont pas, beaucoup vont dans cette zone pour pouvoir acheter des produits ou aller à la rencontre d'autres artisans pour travailler ensemble.
Le nouveau siège social de la Chambre sera donc à Ducos-le-Centre, au 30 route de la Baie des Dames. Des locaux en rez-de-chaussée pour être facilement accessibles et dotés de parkings. Ce sont notamment les anciens locaux de Socook et d'Action Entreprise. Et la Chambre de métier a décidé de les acheter.
Nous avons décidé carrément d'acquérir des locaux pour ne plus se trouver soit en difficulté ou avoir des fluctuations des loyers. Aujourd'hui, les loyers sont forcément beaucoup moins élevés qu'auparavant, mais on pense à nos générations futures et comme les loyers fluctuent, ils pourraient augmenter dans les prochaines années. Mais surtout, nous allons laisser un patrimoine aux futurs artisans et à ceux qui nous succéderont.
Ça veut dire que la Chambre avait les moyens de faire un investissement immobilier?
Nous avions les moyens et nous l'avons toujours dit parce que nos prédécesseurs ont toujours travaillé dans cet esprit et nous avions déjà prévu l'an passé d'aller nous installer sur Ducos, mais nous avions un compromis de vente que nous devions signer au mois de mai. Mais les émeutes étant passées par là, nous avions préféré garder le capital que nous avions pour maintenir l'ensemble des salaires de nos agents parce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était en grande difficulté financière et que les centimes additionnels qui nous étaient dus pour cette année n'avaient pas pu être versés. Donc il fallait qu'on garde cette trésorerie pour maintenir le travail pour nos agents, mais surtout le soutien aux artisans qui, je crois, sur cette période, était encore plus nécessaire qu'aujourd'hui.
Ces nouveaux locaux ont donc été achetés par la Chambre des métiers et cela a fourni du travail puisqu'ils ont été emménagés par des artisans.
Effectivement, en moins de 2 mois, nous avons fait l'acquisition de ces locaux et nous avons aussi, avec ces réaménagements, permis à des artisans d'avoir aussi du travail. Et je crois que quelque part, je ne vais pas dire que tout ça est bénéfique, mais en tous les cas, permet aux artisans d'avoir aussi du travail. Nous avons déjà une partie des locaux qui seront aménagés et dans le futur, nous aurons encore d'autres locaux qu'il faudra aménager et pour lesquels il y aura des appels d'offres pour que les artisans puissent répondre aussi et avoir peut-être encore un peu de travail.
En attendant, l'accueil du public se fera dès le mardi 2 décembre dans les nouveaux locaux de Ducos-le-Centre. L'ensemble des services destinés aux artisans et aux porteurs de projets sera pleinement accessible pendant toute la phase de réinstallation. La question s'est posée pour l'organisation des salons qui se faisaient à Nouville. Un premier salon, le salon Batexpo, a été organisé il y a quelques semaines sur le parking de la Moselle. Et c'est une piste étudiée bien sûr par la CMA. En attendant, notez que les locaux de Nouville seront fermés au public à partir de demain, vendredi 28 novembre.
Les commerçants, eux, préparent le Black Friday. À partir de demain et jusqu'à dimanche, ils proposeront des rabais importants à leurs clients. Ronan Delay, le président du syndicat des commerçants, était notre invité ce matin à 7h30 pour évoquer ce moment très important de l'année pour les commerçants.
Incontournable en Nouvelle-Calédonie depuis sa première organisation, incontournable au niveau mondial. C'est un événement important pour le commerce, pour tâcher de bien terminer le mois de novembre, mais aussi bien entamer décembre, qui est le mois critique de l'année, le plus important. C'est le même principe que pour les soldes, parce que le commerçant peut vendre sous son prix de revient. Maintenant, effectivement, ça dure 3 jours, donc l'opération est dite coup de poing. Comparé au solde qui durait 4 semaines, où là, le commerçant va être dans une logique d'analyser son stock, de remiser d'anciennes collections, des invendus, pour l'évacuer, mettre en place la nouveauté ensuite. Là, lorsque ça dure 3 jours, généralement, il y a des remises. Bien souvent, ce sont des produits, des collections récentes. Donc évidemment, dans un contexte de vie chère et de crise, s'il faut faire des achats, autant en profiter lors de ce week-end. Donc j'espère que les Calédoniens nombreux, je souhaite d'ailleurs à tous mes collègues d'avoir un bon week-end de Black Friday, même si effectivement le commerce ne vit pas sur des remises commerciales. Et le plus important sera le mois de Noël, justement pour eux, pour tenter de partir sur de bonnes bases en 2026.
Les commerçants ont un besoin important de trésorerie en cette année 2025, marquée, vous le savez, par une baisse de la consommation, mais aussi par la fin des dispositifs d'aide après les émeutes.
2025 est plus dur que 2024, bien sûr. La tendance que j'ai de la plupart de mes collègues commerçants oscille entre -30 et -40% par rapport à N-1, c'est-à-dire le mois dernier, l'année dernière. Le problème, c'est que l'année dernière, on était déjà dans des pertes de -15 à -25. Et l'année d'avant, ça commençait déjà à arriver de façon beaucoup moindre. En gros, en quasiment 2 ans, beaucoup de commerçants ont perdu quasiment 50% de leur chiffre d'affaires. Dans ces cas-là, évidemment, on réduit ses marges, on n'embauche plus. Et là, on voit 2026 arriver difficilement, je ne vous le cache pas, parce que des sociétés vont fermer, des gens vont perdre leur emploi, des gens vont continuer de partir. Et la Calédonie, les messages que l'on reçoit des politiques, effectivement, est dans une situation de tension financière extrême. On n'arrive pas encore à voir la lumière au bout de ce tunnel.
Ronan Delay nous a dit espérer la mise en place d'un accord qui stabilise les institutions du territoire pour permettre une relance de l'économie. Le président du syndicat des commerçants réaffirme que la Nouvelle-Calédonie doit retrouver un solde migratoire positif pour relancer la consommation. Les élus du Congrès discutent finances publiques et innovation. Ils sont réunis pour une séance qui a débuté ce matin par des discussions autour du dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes, rapport qui concerne la gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie. Charlotte Coulson.
La Chambre territoriale des comptes met en avant une évolution maîtrisée des effectifs de la Nouvelle-Calédonie, avec une légère diminution de 0,3% des effectifs entre 2019 et 2024. La rémunération du personnel a d'ailleurs globalement diminué de 0,33% sur cette période. Mais la CTC met en garde sur plusieurs points, notamment l'encadrement des chargés de mission, dont le nombre est à maîtriser et dont les missions ne sont pas toujours bien définies. La CTC alerte également sur l'emploi de collaborateurs de cabinet qui doit être limité et leur rémunération plafonnée selon ses recommandations. Enfin, la Chambre va jusqu'à formuler des rappels aux droits, notamment concernant le versement de primes et indemnités sans base légale, mais aussi l'attribution d'avantages en nature qui ne font l'objet ni d'une imposition ni d'une cotisation. Sur ces points, le président du gouvernement, Alcide Ponga, a indiqué lors de la séance publique vouloir s'engager à ce que tout soit résorbé et corrigé. Un amendement a été adopté pour que des mesures en ce sens soient prises avant le 31 décembre 2025. La chef du groupe Rassemblement au Congrès, Virginie Ruffinac, a quant à elle rappelé que le rapport concerne des pratiques constatées avant le 18e gouvernement, puisqu'il étudie la période de 2019 à 2024. Les membres du Congrès ont ensuite examiné le projet de délibération relative à la stratégie pays de l'innovation. Le gouvernement propose en effet de créer une plateforme, une agence de l'innovation qui permettrait aux organismes de recherche, aux bailleurs de fonds, aux acteurs économiques et les collectivités de discuter ensemble des stratégies en matière d'innovation pour la Nouvelle-Calédonie. Cela permettrait, selon Petelo Sao, le membre du gouvernement compétent en la matière, de mieux coordonner les actions. Plusieurs élus se sont montrés réticents face à ce projet, notamment Philippe Blaise de l'intergroupe Les Loyalistes, qui s'inquiète d'un empiètement sur les compétences des collectivités, notamment les provinces. Dans un contexte de réforme économique, il vaut mieux ne pas engager de nouvelles dépenses ni créer de nouveaux organismes, selon lui. Le projet de délibération a été adopté à la majorité, les membres de l'intergroupe loyaliste ayant voté contre. Les élus se penchent maintenant sur les ajustements des membres composant les commissions du Congrès et des organismes extérieurs. Cela concerne les élus de Calédonie Ensemble, Philippe Gomez, Philippe Michel et Annie Roizé, qui seraient remplacés par Emmanuel Cac et Philippe Dunoyer. Et puis les élus devaient également se pencher sur le projet de loi du pays portant diverses mesures en matière de concurrence. Et son examen a été reporté. En direct du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Charlotte Coulson, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Le transfert d'Aircal vers l'aéroport de Tontouta a été officialisé et fixé au 2 mars 2026. Êtes-vous satisfait de cette décision ? Si cela vous satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier est à l'unanimité. Les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent inquiétant que régulièrement des paquets de cocaïne soient retrouvés sur le littoral calédonien. La ville de Nouméa qui lance un appel aux usagers du littoral. Rien à voir avec la drogue bien sûr, mais la mairie les invite à faire preuve de la plus grande prudence en ce début de saison chaude où la présence de requins est plus abondante près des côtes. Dans un communiqué, elle souligne que plusieurs requins, tigres et bulldogs ont d'ailleurs été observés à proximité des plages et des îlots de Nouméa. Tatiana Tchongfat, chargée de projet à la ville de Nouméa, en charge du risque requin.
C'est la saison chaude, donc on sait que c'est une période où on aura beaucoup plus de requins à proximité des côtes, on aura beaucoup plus de fréquentation et donc on a beaucoup plus de signalements en général sur ces périodes-là. Et là, on a déjà effectivement eu des signalements sur l'Ansvata ou sur Magenta. La chance qu'on a en Calédonie, c'est qu'on a une grande diversité de requins. Des requins qui sont petits et un peu sympathiques et des grands requins qui peuvent être considérés comme à risque, donc du tigre et du bulldog. En cas d'observation d'un requin à proximité des zones fréquentées, il est demandé d'informer soit les pompiers au 18, soit le COSNC au 16. Par contre, on ne demande pas de signaler les requins qui sont au loin, dans le récif, en plein milieu du lagon.
La ville rappelle qu'il est fortement conseillé de se baigner dans les zones surveillées et protégées qui sont installées baie des Citrons ou au Château Royal. Elles avaient été mises en place après une série d'attaques dans les baies de Nouméa.
C'était vraiment un objectif de la mairie, c'était de proposer des zones qui soient sécurisées pour les usagers. Donc aujourd'hui, on en a deux, à la baie des Citrons et au Château Royal, qui sont surveillées 7 jours sur 7. Et on le sent bien, les gens se sentent beaucoup plus sereins dans cette zone. Depuis l'installation de la zone de la baie des Citrons, donc c'est-à-dire décembre 2023, on a bien constaté une augmentation de la fréquentation, bien spécifiquement dans les zones qui sont sécurisées. Et on voit bien qu'à côté, on a quand même beaucoup moins de gens, ou alors les gens vont beaucoup moins loin. Ils restent vraiment sur la plage, les 10 premiers mètres de la plage. Il y a eu une prise de conscience de chacun. Après, là, ça va quand même faire déjà 2 ans qu'on s'éloigne de ces attaques. Donc, on rappelle effectivement les bonnes consignes à chacun. C'est-à-dire, allez dans les zones sécurisées, ne prenez pas de risques, fiez-vous à la signalétique qui vous indiquera donc les zones où il faut ou pas se baigner, s'il y a des risques, et lesquels sont-ils sur ces zones, et toutes les bonnes conduites à tenir.
En dehors de ces zones où des barrières anti-requins ont été installées, la baignade et les activités nautiques se font aux risques et périls des usagers. Encore un mot en bref avant une première page de publicité. Vous avez été nombreux à nous signaler avoir reçu un SMS ou un mail de la Calédonienne des Eaux annonçant une coupure de l'alimentation en eau si aucun paiement n'était effectué sous 48 heures. La compagnie indique qu'il ne s'agit pas d'un bug informatique mais bien de véritables relances qui concernent près de 5000 clients. Les Calédoniens qui ont reçu ce message sont invités à venir régler leurs factures au plus vite en agence ou en ligne. Il est 11h44, une première pause avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et la province sud qui a dressé ce matin le bilan du dispositif Sudpro.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pourquoi tu souris bêtement ?
Bah, on est le 4.
Oh, tu y as pensé, mon amour.
Comment tu veux que j'oublie le Happy Day ? C'est tous les 4 du mois au complexe 4. Il y a moins 10% sur une sélection d'articles chez Célocal, la Maison du Pain et Cégène.
Happy Day ? Et notre anniversaire de mariage ?
Oui, bon, oui, non, mais ça va, je peux pas penser à tout non plus.
Hein. Le Happy Day, c'est tous les 4 du mois au complexe le 4. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en magasin. Plus d'infos sur Facebook le 4. Faites vos courses autrement.
Chaque mardi, à 11h et 15h, partez à la rencontre de ceux qui agissent pour protéger notre biodiversité. La rubrique Environnement donne la parole à des associations, des bénévoles, des scientifiques, des acteurs connus ou inconnus qui agissent pour protéger notre patrimoine naturel et exceptionnel. Une émission réalisée en partenariat avec la Province Sud.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Sudpro a rencontré un franc succès. La province sud a dressé ce matin le bilan de ce dispositif qui avait pour objectif d'aider les petites entreprises en relançant la consommation, Nicolas Legrand.
Oui, concrètement, la province sud prenait en charge des factures pour un montant de 250 000 francs. En tout, 7 800 entreprises en ont bénéficié pour payer 14 000 factures d'un montant total de près d'1 700 000 francs. Des 700 millions de francs, les secteurs des services, du BTP et du commerce ont été ceux qui ont été le plus sollicités. Sonia Baquès, la présidente de la province sud.
11 000 entreprises qui ont pu s'inscrire sur la plateforme. 84% de ces entreprises ont pu faire des achats qu'elles n'auraient pas fait si la plateforme n'avait pas existé. Globalement, on a donc un taux de satisfaction important et globalement 1,7 milliard dépensés pour des petites entreprises qui n'avaient pas été aidées par l'État dans le cadre des différents dispositifs. Quand on donne simplement une subvention, la subvention, des fois, elle meurt, entre guillemets, à l'intérieur de l'entreprise parce qu'elle n'est pas redépensée ailleurs. Là, clairement, il y a un effet levier parce que cet argent qui a été donné aux petites entreprises a été dépensé dans les entreprises calédoniennes et pour plus de 50% dans les petites entreprises calédoniennes. Donc, ils ont dépensé entre eux pour 55% des dépenses. Donc, clairement, ça a fait marcher ce tissu économique qui, finalement, constitue la très grande majorité du tissu économique calédonien.
Et pour 2026, Sudpro va continuer, mais il va évoluer.
Sudpro va continuer puisqu'on inscrit dans le budget de la province qui sera adopté le 4 décembre prochain 500 millions sur la plateforme Sudpro. Donc Sudpro va continuer, sans doute de manière différente de ce qui a fonctionné aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on prenait 100% des factures dépensées par les petites entreprises parce qu'on voulait un vrai coup d'accélérateur à des entreprises qui étaient en grande souffrance. Là, ce sur quoi on travaille, c'est un Sudpro nouveau dans lequel en fait la province va bonifier le paiement des factures, en payer une partie, un peu comme ce qu'on fait sur Sud Sécurité, où on paye 20-30%, avec l'idée de se focaliser sur des entreprises qui sont peut-être plus en souffrance que d'autres, certains secteurs qui sont plus en souffrance que d'autres, d'avoir des campagnes qui permettent de répondre aux difficultés particulières de certains secteurs.
Et autre dispositif nouveau qui doit être voté le 4 décembre prochain en Assemblée de province, Sud Relance, destiné aux TPE mais aussi aux PME. Il s'agit d'un produit bancaire de cofinancement. La société doit apporter via une banque ou ses actionnaires 50% du montant du projet. La province Sud et BPI France complètent l'enveloppe. On retrouve Sonia Baquès, la présidente de la province Sud.
On a un nouveau dispositif qui répond à ce qu'on a entendu de la part d'un certain nombre d'entreprises, peut-être un peu moins petites, peut-être de taille moyenne, qui nous disent on a beaucoup de mal en fait à avoir accès à des lignes de trésorerie, à nos besoins en fonds de roulement sont pas couverts parce qu'en fait souvent on a consommé notre trésorerie pour tenir, on arrive un peu au bout, ou alors on a des investissements à faire et on n'a pas le cash nécessaire pour faire ces investissements qui nous permettraient de redémarrer, et les banques souvent demandent beaucoup de garanties qu'ils n'ont pas forcément ni à titre personnel ni au titre de l'entreprise. Donc là on a un nouveau dispositif qui s'appelle Sud Relance, qui est un dispositif en partenariat avec la BPI, qui permet en fait que là où la province met un franc, ça permet à l'entreprise d'avoir accès à un crédit jusqu'à 6,8 francs, avec une absence de garantie et de frais de dossier et un taux de crédit à 3,48%. Donc on a finalement un dispositif simplifié qui permet aux entreprises d'avoir accès à de la trésorerie plus facilement pour des montants entre 6 et 36 millions de francs pacifiques.
Et les entreprises auront ensuite 5 ou 7 ans pour rembourser cet emprunt. Et c'est donc BPI France qui décidera de valider ou non les emprunts et qui assumera le risque financier.
En bref, la reprise des audiences aux assises de Nouméa, l'affaire en appel concernant un meurtre à Wallis et Futuna a été reportée en début de semaine pour des raisons personnelles concernant l'un des deux accusés. Depuis ce matin, la cour examine donc une affaire de mœurs. Un jeune homme de 20 ans est accusé d'avoir violé sa petite amie en mai 2022 au Mont-d'Or. Le procès doit durer 2 jours. Et puis à Nouméa, une propriété privée a été la proie des flammes cette nuit. 2 phares et 1 deck ont brûlé près d'une habitation située rue Boussol à la vallée des Colons. Les occupants de la maison ont été évacués. L'habitation principale, elle, est intacte. Les pompiers sont intervenus vers 4h20 du matin. Tout risque de propagation a été écarté.
Radio Rythme Bleu, 11h49.
Le logement au cœur du rétablissement et de l'autonomie des personnes vivant avec des troubles psychiques. Ce matin, une convention a été signée par la SIC, le CHS et la GAT, l'association de gestion des ateliers thérapeutiques, Léo Fichou.
Oui, un dispositif innovant de colocation accompagnée dans les logements de la SIC à Dumbéa pour 9 patients du CHS, des patients qui n'ont plus besoin d'être accompagnés 24h/24, mais qui ont en revanche besoin d'une période de transition avant de retrouver une vie entre guillemets normale. Mélodie Appleton est neuropsychologue au CHS.
L'hôpital, par le biais d'associations, comme c'est le cas ici, va se porter garant dans la location de logements. En fait, c'est une façon de sécuriser un paiement pour le bailleur social. Et en même temps, c'est très intéressant pour le patient parce que ça lui permet d'accéder à un logement qui, à cette étape-là de son rétablissement, n'est pas capable de trouver tout seul. Et pour continuer leur rétablissement, parce qu'ils n'ont plus besoin d'être dans les murs de l'hôpital, ils ont une stabilisation qui est telle qu'ils peuvent vivre à l'extérieur. Mais à cette étape-là, ils ont quand même besoin encore de soins, d'accompagnement vers l'autonomie pour retrouver certaines aptitudes et aussi pour réussir à réapprendre à vivre tout seul avec ce que ça implique. Ils reviennent à l'hôpital, ils reviennent pour des activités thérapeutiques qui sont proposées ici.
Un véritable tremplin vers la dignité, l'inclusion, l'autonomie pour 9 patients du CHS, dont Robin. Après plus d'un an au CHS et des mois de préparation, il a hâte de démarrer une nouvelle vie en colocation. Écoutez.
Ouais, c'est un très bon projet que j'aime bien, je me sens bien. Voilà. La maladie aussi, elle s'en va quand on a des projets en fait en tête, mais quand on n'a pas de projet, ben, la maladie elle est là, elle est forte. Elle nous fait des idées noires et tout ça en fait. Donc ouais, je suis content. Je peux trouver une vie normale, autonome, et être, refaire ses papiers et tout ça. Travailler dans une entreprise. Je suis en colocation avec Marc et David. Des caldoches en fait, des copains à moi en fait, voilà quoi. Avec eux, je lui dis toujours black and white, black and white. On va faire les courses ensemble, on va faire des pique-niques le week-end, on va faire des, enfin, on va faire des tas de trucs quoi, des choses de la vie quoi.
Les 9 nouveaux locataires suivis toujours par le CHS devraient emménager dans leur logement à Dumbéa d'ici le 15 décembre.
Un an et demi après sa destruction, Office Plus a posé la première pierre de son nouvel entrepôt. L'ancien bâtiment, lieu de stockage principal de la société, avait été pillé puis incendié le 21 mai 2024 au moment des émeutes. Après avoir mis en place des solutions provisoires, notamment en utilisant un entrepôt dans Ducos, le nouveau local va finalement être reconstruit sur le même site de Doniambo, mais avec plus de sécurité. Pour le directeur général d'Office Plus, Pierre Kraft, cette décision a été mûrement réfléchie, mais elle est aussi symbolique.
Cet entrepôt, il avait une histoire, il a une âme, il est bien placé par rapport à nos activités, hein, très proche du centre-ville. On en est propriétaire et ça nous paraissait normal de le reconstruire de manière à ce que notre société puisse bénéficier d'un entrepôt adapté. Nous, on fait figure un peu de pionnier, puisqu'on est le premier à reconstruire dans une zone qui a été très, très, très touchée. Mais notre objectif, c'est non seulement de reconstruire nous, mais nous qui travaillons Office Plus avec toutes les entreprises de la place, on attend qu'elles aussi se remettent à croire en l'avenir, réinvestissent, reconstruisent, redéveloppent l'emploi, redéveloppent la consommation. Et à partir de là, l'économie redémarrera et tout le monde sera un peu mieux qu'aujourd'hui.
Une première pierre posée en présence du membre du gouvernement, Christopher Gigès, de la présidente de la province sud, Sonia Baquès, ou encore du président de la CCI, David Guyenne. Pour cette reconstruction, la société a bénéficié d'une défiscalisation de près de 30% sur le coût total des travaux, estimé à 160 millions de francs.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Un petit mot rapide sur cette opération que nous avons lancée en début de semaine. Et vous êtes déjà nombreux à venir à Radio Rythme Bleu pour déposer les cadeaux qui seront, je vous le rappelle, 10 qui seront distribués aux enfants et aux familles en difficulté pour cette fête de Noël. Votre générosité, vous le savez, est attendue par beaucoup. On compte sur vous, vous êtes déjà passés nombreux. N'hésitez pas à venir à la radio qui est ouverte et qui vous accueille tous les jours de 7h à 19h. Une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez être parfaitement informé avant de prendre vos décisions, vous avez besoin d'être accompagné par des experts, vous voulez être entendu et défendu auprès des institutions et élargir votre réseau, rejoignez la première organisation patronale du territoire sur www.medef.nc. Avec le MEDEF Nouvelle-Calédonie, vous n'êtes jamais seul.
Les sapeurs-pompiers de Nouméa vous ouvrent les portes de la caserne Lucien Parent, située au centre-ville, le samedi 29 novembre de 9h à 16h.
Visite des camions, initiation aux gestes qui sauvent, démonstration du groupe d'intervention en milieu périlleux, parcours du mini-pompier.
Un programme riche en animations et surprises vous attend.
Et pour les enfants, un concours de dessin sur le thème des pompiers est d'ores et déjà ouvert. Déposez-le avant le mercredi 26 novembre à la caserne Lucien Parent.
Des lots seront offerts le jour J.
Toutes les infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité nationale, on retrouve Jean-François Baudin.
Et le retour annoncé du service militaire, nouvelle formule. Emmanuel Macron va s'exprimer sur le sujet la nuit prochaine pour nous lors d'un déplacement en Isère. Annonce qui fera écho aux propos tenus la semaine dernière par le chef d'état-major des armées devant le Congrès des maires, affirmant qu'il fallait se préparer à un éventuel conflit. Pas forcément sur le sol français, mais dans la région est de l'Europe, si un pays de l'OTAN devait être attaqué par la Russie. Ce que devrait annoncer Emmanuel Macron, ce n'est pas le retour du service militaire obligatoire tel qu'il existait avant sa suppression dans les années 90, mais un service volontaire. William Molinier pour Europe 1.
C'est l'option qui a été retenue, proposée par l'état-major des armées. Ce service national volontaire durerait 10 mois sur la base du volontariat mis en place, selon les informations d'Europe 1, dès l'année prochaine. L'objectif est d'avoir 10 000 jeunes, filles ou garçons en 50 000 en 2035, première marche vers un éventuel engagement sous contrat avec les armées qui vont devoir s'adapter pour accueillir ces premières recrues, leur trouver des formateurs. L'enjeu est aussi d'attirer des jeunes vers la réserve dont l'épaisseur, 50 000 engagés, est censé doubler d'ici à 2035. Une nouvelle mouture aussi de la journée défense et citoyenneté est envisagée. La grande question, c'est combien tout cela va coûter. Les estimations tournent autour d'1,7 milliard d'euros, mais ce coût n'a pas été intégré à la dernière loi de programmation militaire. Hors de question pour l'armée de ponctionner dans les crédits d'armement. Il faudrait donc pour cela l'inclure dans l'examen d'une loi rectificative qui pourrait être inscrite à l'ordre du jour du Parlement dans les prochaines semaines.
Le meurtre de Thomas à Crépol dans la Drôme en novembre 2023 n'est toujours pas élucidé. Il avait été tué par une arme blanche lorsqu'une bande avait fait irruption lors d'une fête organisée dans le village. Dans cette affaire, 14 personnes ont été mises en examen et incarcéré, mais l'un des prévenus, âgé de 19 ans, a pu quitter sa cellule hier. Sa détention provisoire ne pouvait pas être légalement prolongée car il était mineur au moment des faits. Le jeune homme libéré va porter un bracelet électronique durant 6 mois. Il a également l'interdiction de paraître dans la Drôme, mais aussi dans certaines villes proches de Crépol pour qu'il ne puisse pas rencontrer les victimes ou les proches des victimes. De son côté, le garde des Sceaux annonce la fin des centres d'éducation fermés pour les mineurs délinquants. Ils avaient été instaurés en 2022. Un dispositif qui n'a pas fait ses preuves, estime Gérald Darmanin, qu'il souhaite remplacer dès 2026 par des foyers d'éducation renforcés avec 3 axes, la scolarité obligatoire, la santé mentale et la lutte contre les addictions. Les chrétiens, cible privilégiée des islamistes en France, c'est ce qui ressort d'une note de la DGSI, des renseignements intérieurs, révélée par Le Figaro. Pour les islamistes, les chrétiens sont associés à l'Occident et donc à l'ennemi. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Les renseignements décrivent une stratégie assumée pour attiser les tensions, frapper des chrétiens souvent qualifiés de croisés. Les djihadistes refusent tout dialogue religieux et misent sur la division. Ils appellent leurs partisans à s'en prendre aux églises, aux prêtres, aux fidèles et plus largement à tous les symboles du christianisme. En France, les projets déjoués se multiplient depuis 20 ans, comme à Béziers en 2021 où une jeune femme préparait une attaque contre une église de son quartier. Les services rappellent aussi les nombreux passages à l'acte. Le père Hamel assassiné en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, les 5 morts du marché de Noël de Strasbourg en 2018, les 3 victimes de la basilique de Nice en 2020, ou encore en septembre dernier l'agression de Lyon visant un fidèle irakien en fauteuil roulant. La note insiste sur un point préoccupant, la cible chrétienne reste un marqueur central de l'idéologie terroriste et une menace à surveiller de très près.
Il est 11h59, la dernière pause dans ce journal. On se retrouve pour évoquer l'actualité sportive et notamment le football dans un instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Au Warail, vos matins se savourent, puis se prolongent en douceur au parcours aquatonique. Jusqu'au 15 décembre, profitez de notre offre exclusive. Un petit déjeuner américain ou équivalent dans votre bar et restaurant Le Warail, suivi d'une entrée au parcours aquatonique pour seulement 5500 francs. Le combo parfait entre gourmandise et détente au Château Royal. Réservez vite au 23 01 30 ou rendez-vous sur notre page Facebook Château Royal Beach Resort et Spa. Offre valable du 15 novembre au 15 décembre. L'entrée au spa doit être utilisée le jour même. Tout supplément sur la formule petit déjeuner reste à la charge du client.
Avec Canal+, les fêtes s'annoncent généreuses. Offrez-vous le meilleur du cinéma ultra récent, les plus belles rencontres sportives et les dernières séries à dévorer. Mais pas que. Pour tout nouvel abonnement Canal+, repartez avec une Smart TV 4K QLED 126 cm pour seulement 5 francs de plus. Faites-vous plaisir et à vous les soirées cinéma à la maison en 4K. Jusqu'au 31 décembre, pour tout nouvel abonnement de 24 mois aux formules Sélection Plus, Essentiel Plus, Premium Plus et Ultimate Plus, un téléviseur Smart TV 4K Hisense Sable en Nouvelle-Calédonie dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations sur www.canalplus-calédonie.com.
Chez Sima Quincaillerie, c'est déjà Noël. La perceuse visseuse Makita 450 watts Mandrin Auto est vendue 7900 francs. Du 16 novembre au 31 décembre, plus d'infos sur Facebook et sur simac.nc. À Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Katéviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et le football est à la une avec la fin ce matin de la 5e journée de Ligue des Champions. 42 buts en 9 matchs, dont 8 entre le PSG et Tottenham, Léo Fichou.
Oui, tout avait mal commencé une fois de plus pour les Parisiens, malmenés par les Spurs. Les joueurs de la capitale se sont finalement imposés 5 buts à 3 grâce notamment à un triplé de Vitinha. Le Portugais était au-dessus des autres, confirme son coach Luis Enrique.
Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que toute l'équipe, mais spécialement les trois milliers de terrain, ça a été incroyable. Ce sont joueurs de très haut niveau, avec Warren aussi. Et ça a été différent. Et j'ai beaucoup d'envie de voir toute l'équipe ensemble et en forme. Et j'espère que ça arrive le plus vite possible.
Et grâce à cette victoire, les Parisiens pointent à la deuxième place du classement de la Ligue des Champions, à égalité de points avec le Bayern Munich, défait 3-1 par Arsenal. Les Gunners sont seuls en tête avec 5 victoires en 5 matchs. Monaco est allé faire match nul 2 partout à Chypre, sur la pelouse de Paphos. Les Monégasques sont 23e, juste derrière Marseille, 21e, vainqueur de Newcastle. Score 2-1, c'était hier. Enfin, on notera la performance XXL de Kylian Mbappé, le Français, auteur d'un quadruplé avec le Real Madrid lors de la victoire 4-3 des Madrilènes sur l'Olympiakos.
Et puis sur le territoire, parlons de la Casino Padel Cup. À partir de ce soir, ce sera les quarts de finale.
Avec de très belles affiches au programme. Chez les hommes d'abord, les Australiens seront opposés à la paire belge. Les Tahitiens, eux, défieront les tenants du titre espagnol. On aura également droit à un choc entre les meilleurs Calédoniens, les frères Mono, contre Nicolène Godrella et Laurence Pesley. Chez les dames, duel entre les Françaises et la paire calédo-tahitienne. On suivra aussi deux des meilleures calédoniennes, Stéphanie Di Lucho et Dorian Bray, contre les Australiennes. Les quarts de finale de la Casino Padel Cup, c'est à suivre dès 18h.